Donc, frères et sœurs, pour commencer le sermon, je voudrais vous poser plusieurs questions. Et voici la première question. À quoi reconnaît-on qu'une nation est sur le déclin? Ça peut être formulé autrement. Quels sont les signes avant-coureurs qui tendent à montrer qu'une ville, une province, un État, un pays ou une civilisation tout entière sont sur le point de s'effondrer? Il y a plusieurs réponses qu'on peut donner à certainement des éléments qui vous viennent en tête. J'ai une liste non exhaustive. On peut penser à la hausse de la criminalité, par exemple. On peut penser à la hausse du taux de personnes sous le seuil de pauvreté. On peut penser à l'augmentation du coût de la vie ou à la recrudescence de la corruption. Des tensions internes politiques qui emmènent un fort clivage au niveau de la population, qu'on appelle de la polarisation. Et certains des aspects que je montre sont déjà présents. Je pense que vous pensez à certains pays quand je parle de ces notions. On peut penser à une dette publique astronomique qui ne cesse de monter et qui semble insolvable. On peut penser à des infrastructures, par exemple, qui sont déficientes, que ce soit des infrastructures routières ou des services publics, comme les hôpitaux et les choses comme ça. On peut penser à un exil de la population. En général, quand une région perd ses habitants, c'est que c'est pas bon signe. Depuis quelques années, par exemple, la Martinique perd sa population. On peut penser au marché immobilier, par exemple, qui est en crise et qui n'est pas stable. On peut penser aussi à la dévaluation de la monnaie. La monnaie n'est plus stable. Et quand généralement plusieurs de ces éléments se retrouvent, ça conduit à des guerres civiles. Alors là, on est déjà dans de beaux draps, entre guillemets. Ou encore, on peut penser à des répétitions, des crises sanitaires à répétition. Et bien sûr, spirituellement parlant, on peut penser à un déclin de la moralité. Donc, tous ces signes sont quelques-uns des signes indicateurs de l'extinction d'un empire. Ce sont des éléments qui sont visibles, vérifiables, voire quantifiables pour certains, mais à une condition, à condition de bien vouloir accepter la réalité des faits qui se présentent devant nous. Et quand beaucoup de ces signes arrivent dans un laps de temps très court, ou même en même temps, on sait que quelque chose va très mal. Et c'est certainement des signes qui sont présents, comme je l'ai dit, dans nos sociétés modernes et spécialement occidentales en ce moment. Alors, pourquoi, malgré tous ces signes qui sont vérifiables, palpables, si on peut dire, pourquoi les sociétés déclinent? Parce que devant ces signes, ça devrait être des alarmes pour nos dirigeants, pour leur signaler que quelque chose ne va pas. Mais malgré cela, les sociétés, les empires déclinent. Pourquoi? Parce que malgré les faits irréfutables, certains responsables politiques s'évertuent de nier l'évidence. Et avec cela, ils entraînent les populations sur lesquelles ils gouvernent. Et je vais prendre un petit exemple à l'état en parlant de l'état californien. C'est un exemple à petite échelle. Mais nous voyons que depuis la pandémie du COVID-19, l'État est en train de perdre sa population de façon continue et de façon soutenue. Il y a des gens qui rentrent quand même, qui s'installent en Californie, mais il y a plus de gens qui partent. Et malgré des études assez claires, des statistiques irréfutables qui prouvent ce fait, le gouverneur de l'État, M. Gavin Newsom, nie les faits. Lorsqu'il est interrogé dans les journaux, peu importe que ce soit des conservateurs ou des libéraux, il va nier les faits, il va tenter de montrer un différent portrait à travers d'autres études, d'autres statistiques bien pointues qui tournent à son avantage. Il va montrer, non, c'est pas si grave que ça. Comme je dis, c'est quelque chose à petite échelle. Et il va même utiliser des statistiques trop datées, que j'ai dit, périmées. Parce que quand nous parlons d'exode, entre guillemets, de population, si vous êtes en 2023, vous ne pouvez pas utiliser des statistiques de 2021. Parce que entre 2021 et 2023, il y a des données qui doivent être collectées. Mais nous ne sommes pas là pour faire le procès de M. Newsom. Parce que ce que M. Newsom fait n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nos dirigeants politiques ne sont pas les seuls à faire cela, à se cacher, à se voiler la face, parce que nous aussi, nous faisons la même chose. Individuellement, nous faisons la même chose. Il s'agit d'un trait de la nature humaine, et c'est celui de ne pas vouloir embrasser pleinement les résultats et les conséquences des responsabilités qui nous incombent, surtout quand ces résultats sont négatifs. Il s'agit d'un défaut chez l'humain qui consiste à ne pas consentir à une analyse de soi honnête ou une analyse de la situation de façon honnête. Comme vous le savez, comme nous sommes à près de 4 semaines de la Pâque et des pains sans levain, je voudrais donc dans ce sermon élaborer l'importance d'un honnête examen de soi. Et donc au cours du sermon, nous allons examiner les causes de ce mal-être, de cette défaillance. Pourquoi on n'est pas capable de faire cet examen comme il faut alors que toutes les preuves sont là, souvent. Et ensuite, nous allons analyser les raisons bibliques qui commandent un tel examen. Donc, si vous voulez un titre pour le sermon, je l'ai intitulé « L'importance d'un inconfortable mais honnête examen de soi ». L'importance d'un inconfortable mais honnête examen de soi. Donc pourquoi nos dirigeants politiques semblent nier la réalité et tentent toujours de présenter les choses sous un joug positif? Pourquoi jouer à la politique de l'autruche? Pourquoi faisons-nous la même chose aussi? Simplement parce qu'il faut que nous fassions un constat. Nous sommes dans l'Église et nous avons des outils différents à notre disposition. Et nous sommes en mesure de faire un constat. Et les versets que nous allons voir au début du sermon, ce sont des versets que nous connaissons tous. Mais je veux vous montrer le cheminement qui amène justement à cette défaillance de l'examen de soi. Donc, pour commencer ce constat, tournons à Éphésiens 2. Allons à Éphésiens 2. Versets 1 à 3. Nous allons aller et remonter aux origines de ce mal que nous vivons tous. Éphésiens 2, versets 1 à 3. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme tous les autres. Ça, c'est le constat que nous sommes en mesure de faire. Le constat, c'est quoi? C'est que nous sommes exposés au péché, nous sommes sous l'emprise du péché. Vous le savez tous, mais c'est important de se le rappeler. Le péché fait en sorte que nous sommes déconnectés de Dieu. Mais avant de voir cela, rappelons quelle est la définition biblique du péché. Je suis sûr que si vous allez dans la rue et que vous faites un petit sondage et que vous demandez aux gens c'est quoi le péché, même si vous étiez dans une société très religieuse, vous allez avoir des réponses différentes. On n'a pas besoin d'aller dans le petit Larousse, dans le Larousse ou dans le petit Robert. Parce que la Bible nous donne la définition du péché dans 1 Jean 3, verset 4. Aussi des versets très familiers, comme je l'ai dit. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. C'est quelque chose de clair, de limpide, que nous comprenons, que nous connaissons. Mais malgré cela, nous avons quand même du mal. Et surtout, le monde chrétien ne comprend pas nécessairement les implications de ce verset. Ils ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire dans sa globalité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire la petite étude biblique à propos des commandements, des jugements, des ordonnances. Parce que lorsqu'on comprend ces choses, on est capable de mieux comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire à travers les jugements, les statuts, la loi, et les ordonnances. Et nous comprenons que effectivement, il y a des choses qui ne sont plus nécessaires de faire, notamment tout ce qui concerne les sacrifices, puisque le sacrifice parfait est venu. Mais ça ne veut pas dire qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. On ne peut pas tout jeter, tout simplement parce qu'il y a un aspect de la loi qui n'est plus requis. Donc, le péché est la transgression de la loi. Donc, si c'est la transgression de la loi, ça veut dire que la loi est toujours en place et valide. Mais quelles sont les conséquences du péché? Quelles sont les conséquences du péché? Allons à Ésaïe 59. Je pense que quand je parle de conséquences du péché, il y a plusieurs notions qui peuvent venir en tête. Mais je veux mettre l'accent sur une notion. Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Louis Segond emploie le mot crime, mais d'autres versions telles que la Neuchâtel ou la Darby en français emploient le mot iniquité. Mais on comprend l'expression. Ce sont vos crimes, vos iniquités, vos péchés qui mettent une séparation. Donc, une des conséquences du péché, c'est que nous sommes séparés de Dieu. Et on continue le cheminement. En quoi se manifeste la séparation de Dieu? Comment on peut dire qu'on est séparé de Dieu? Quels sont les éléments que nous pouvons expliquer et qui tendent à montrer que nous sommes séparés de Dieu? Allons à Romains 11. Romains 11, verset 8. Dans ce contexte-là, Paul parle de la nation d'Israël. Mais on va voir qu'on peut étendre cela à tout le monde, c'est sûr. Mais dans Romains 11, verset 8, Paul dit « Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Verset 9. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Verset 10. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Donc, comment sait-on, encore une fois, on veut répondre à la question, comment se manifeste la séparation entre Dieu et nous, c'est qu'il y a un problème d'aveuglement spirituel. À plusieurs reprises, Paul parle de la vue, des yeux pour ne point voir. Que leurs yeux soient obscurcis encore pour ne point voir, au verset 10. Et on va mettre cela en perspective avec un cas concret, en retournant dans Ésaïe. Ésaïe 44, cette fois-ci. Ésaïe 44, verset... On va commencer au verset 16 pour avoir un peu de contexte. Puisqu'ici, on a un cas particulier qui semble passer de mode, mais pourtant qui est bien là et qui est vrai. Verset 16, « Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande, il s'apprête un rôti et se rassasie. » Il se chauffe aussi et dit « Ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. » Verset 17, « Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore et il l'invoque. Et il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Et verset 18, « Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. » Donc ici, nous avons essentiellement de l'idolâtrie. C'est le deuxième commandement, de ne pas faire d'images taillées, de les adorer. Un péché, clairement. Et cela prouve la séparation entre Dieu et l'homme. Et la manifestation de cette séparation, encore une fois, c'est qu'il y a un aveuglement. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Donc, c'est tout cela le cheminement. Le péché entraînant la séparation avec Dieu nous a induit dans un état d'aveuglement où nous avons une vision altérée. Un état spirituel tel que notre propre jugement n'est pas bon. Il ne conduit pas à la paix, il ne conduit pas à la raison, il ne conduit pas à la vie. Et voyons quelle est la conséquence de cet aveuglement, ou de cette vision obstruée, de cette vision altérée. Nous voyons ça au verset 19. « Il ne rentre pas dans lui-même. » Ça veut dire qu'il ne fait pas un examen de soi correct et convenable. Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Donc c'est tout cela que je voulais vous montrer pour arriver à comprendre pourquoi ce fameux défaut, ce fameux déni de la situation, cela provient du péché. Nous avons un voile. Et comme j'ai dit, ce voile se caractérise par un déni Puis souvent, ça tourne au blâme. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas des bonnes statistiques, celles-là sont meilleures. Et nous ne voyons pas la chose clairement. Nous sommes incapables de faire une évaluation honnête de nous-mêmes. Mais frères et sœurs, si nous sommes ici dans cette salle, c'est parce que nous avons un espoir. Nous avons un espoir. Nous avons reçu un appel spirituel pour nous aider justement à sortir de cet état d'aveuglement. Pour nous aider à sortir de ce déni qui franchement mène à la misère et aux plus profondes tristesses. Nous avons été appelés par Dieu qui a ôté ce voile pour que dorénavant nos yeux, y voient. Pour que nous discernions les choses spirituelles. Lorsque nous avons reçu cet appel, la plupart d'entre nous, et certains qui travaillent certainement à cela, nous avons fait un profond examen de nous-mêmes, après avoir évalué les coûts, le pour et le contre, est-ce que ça vaut la peine? Après avoir pris la décision, validé notre engagement par les eaux du baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit et de façon officielle, ce voile était levé à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, de façon officielle, nous avons eu une meilleure vision. Cette vision doit être constamment améliorée, ceci dit. Mais elle est mille fois mieux, elle est plus claire, elle est plus limpide que ce que nous avions avant, puisqu'avant, nous n'étions pas capables de discerner le bien et le mal comme il fallait. Peut-être que nous avions des notions, mais ce n'était pas nécessairement en accord avec ce que la Bible nous dit. Et malgré ça, malgré l'anéantissement de notre cécité, une amélioration drastique de notre visibilité sur le plan spirituel, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue et que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, chapitre de l'amour, au verset 12, Paul dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Donc, malgré le fait que le voile soit ôté, malgré le fait que nous ayons cette meilleure vision, malgré le fait que nous soyons capables de discerner les choses, le bien et le mal, Paul dit quand même que nous voyons de manière obscure. On n'est pas sorti de l'auberge, entre guillemets. Mais Paul, il fait quelque chose d'intéressant. Il clarifie la situation, il donne une perspective vraie, concrète et complète de la situation. Il ne se voile pas à la face, Paul. Et comme M. Arsenault le mentionne assez souvent, l'apôtre Paul et les différents apôtres, ce sont des gens qui ont eu une expérience avec Dieu beaucoup plus, je pense, forte que nous et qui avaient une mesure du Saint-Esprit qui est beaucoup plus grande que nous. Et malgré cette mesure du Saint-Esprit, ils sont capables de dire ça. Dit non, nous ne sommes pas encore arrivés au but. Donc oui, nous ne sommes plus aveugles spirituellement, mais nous voyons de façon obscure. Nous voyons en partie, la vision est trouble quand même. Mais nous ne sommes pas dans la même catégorie que ceux qui n'ont pas encore reçu cet appel. Donc Paul n'est pas dans le déni. Il est conscient de nos faiblesses. Donc, est-ce que vous comprenez l'importance de l'examen de soi avec tout ce que nous venons de voir? C'est-à-dire que malgré, encore une fois, cet appel, malgré ce Saint-Esprit en nous, on a du pain sur la planche. Comprenez-vous l'importance des jours saints à ce moment-là, dont l'accent est mis justement pour combattre le péché? Voyons-nous l'importance que nous devons accorder à cette aptitude de s'analyser honnêtement, quand bien même cela est inconfortable? Parce que c'est vrai qu'on n'aime pas ça. Parce qu'on se sent faible. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pensé cela? Des fois, on se compare. C'est pas la bonne chose à faire. On peut se comparer seulement par rapport à la Bible, à Dieu. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec cet exercice et il y en a d'autres qui sont moins à l'aise avec cet exercice. Parce que notre nature humaine n'aime pas cela. On peut aller au premier péché, c'est là d'où ça vient. Quand Adam et Ève ont péché, tout de suite, ça a été un jeu de blâme. Ils se sont sentis différents, vulnérables. C'est de là d'où ça vient. C'est inconfortable, mais il faut le faire. Maintenant, voyons les raisons bibliques de l'examen de soi. Nous avons vu d'où ça provient, pourquoi nous avons cette défaillance en nous. Maintenant, voyons pourquoi il faut le faire. Et une des premières raisons, c'est tout simplement parce que c'est un commandement. C'est un commandement. C'est clair, c'est net. On peut voir ça dans Sophonie. Sophonie 2, verset 1. Je n'ai un peu de temps pour chercher. C'est entre Habacuc et Agée. Sophonie 2, verset 1. Ça reprend la même expression qu'Ésaïe. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Au verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Donc c'est pas juste les gens qui font des péchés, qui ne sont pas appelés, c'est aussi ceux qui sont appelés. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez la justice, cherchez ou recherchez l'humilité. Donc c'est un commandement pour tout le monde. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. C'est ce que nous devons faire. C'est une des raisons pour lesquelles nous devons conduire cet examen de soi. Notre raison, c'est parce que pour lesquelles nous devons mener cet examen de soi, c'est pour être capable d'établir et d'accepter la vérité telle qu'elle est, de ne pas nous mentir à nous-mêmes. Parce que si nous nous mentons à nous-mêmes, nous faisons un faux témoignage, même si c'est pas envers quelqu'un, mais c'est à nous-mêmes. Donc, encore une fois, nous brisons le commandement, la loi de Dieu. C'est un faux témoignage pareil et nous sommes en danger. Cela nous permet de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, que nous devons nous améliorer et ce, en tout temps. Pourquoi conduire un tel examen? C'est aussi pour que nous puissions lutter contre le péché. Parce que souvenez-vous le cheminement qu'on a fait au début du sermon. Ce défaut vient à cause du péché. Donc, si nous reconnaissons que nous devons lutter contre le péché, parce que les tentations sont toujours présentes, nous sommes toujours dans cette chair, Nous devons aussi admettre que nous sommes perfectibles et que dans nos évaluations personnelles, dans nos introspections, nous devons nous améliorer. Nous devons établir ce constat et agir avec conséquence. C'est capital. Et je pense que je ne me tromperais pas si je disais que dans cette salle, nous sommes tous d'accord avec ce que je viens de dire. Nous sommes tous d'accord que nous sommes encore sous l'emprise du péché. Nous sommes tous d'accord que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous d'accord que nous devons nous améliorer. Mais certains l'expriment de façon différente. Et ça, c'est pas un problème. Certains n'ont aucun problème à le dire. Certains sont un peu plus timorés. Et d'autres ne veulent pas en parler, mais peu importe dans quelle catégorie vous vous situez, que faites-vous? Qu'est-ce que je fais avec ce constat? Que je dois m'améliorer, que je dois m'analyser. Jacques va nous résumer un peu ce défi, une fois que ce constat est fait. Jacques 1, Jacques 1, verset 21, Jacques 1, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc ici, nous voyons que il y a une lutte contre le péché. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, nous devons mettre en pratique pour ne pas nous mentir à nous-mêmes, pour ne pas laisser le péché abonder, entre guillemets. Nous connaissons tous ce passage, mais comprenons-nous vraiment ce qu'il veut dire? Parce que si on s'arrête au verset 24, ça a l'air un peu léger. Et après s'être regardé, il s'en va et l'oublie aussitôt qu'il était. Wow, c'est pas trop grave. Mais non, c'est pas ce que le verset dit là. Il faut lire à travers ou entre les lignes. Parce qu'en fait, ce que Jacques essaye de nous dire, c'est que nous devons nous évaluer honnêtement. Et que si nous ne le faisons pas, nous péchons. Et il va encore plus loin. C'est que si nous nous évaluons, nous faisons le constat de ce que nous devons changer, mais que nous ne prenons pas les actions nécessaires pour changer, nous péchons. Il y a deux facettes ici. Donc là, les mots sont un peu peuvent paraître légers sans trop grandes conséquences, mais si vous allez dans Jacques au chapitre 4, il redit essentiellement la même chose, mais de façon plus directe. Jacques 4, verset 17. Il va droit au but. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc là, les choses sont un peu plus sévères. C'est un peu plus corsé. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il ne faut pas que notre examen de soi, lorsque nous le conduisons, reste du domaine intellectuel. Il ne faut pas que ça reste là, dans nos têtes, dans nos cœurs, sans qu'il n'y ait d'action qui soit portée. Donc, quel est le but, encore une fois, de cet examen inconfortable, mais honnête de soi? C'est qu'il est là pour cesser de pécher. Ne pas s'examiner, c'est pécher. Ne pas rentrer dans nous-mêmes, comme nous l'avons vu dans Sophonie. Se mentir à soi-même, c'est péché. Ne pas admettre la vérité, c'est péché. Minimiser le bilan de l'examen, c'est aussi péché. Ne pas prendre des actions nécessaires sur les résultats de l'analyse que nous avons faite, du bilan que nous avons fait, de l'évaluation que nous avons faite, ne pas prendre action, c'est péché. Retarder la mise en place de la solution lorsque nous avons cerné un petit point de caractère à améliorer, c'est péché quand on retarde. Il ne faut pas non plus que nous soyons obsédés. Il faut comprendre que nous sommes des êtres faillibles. Nous n'allons pas tout résoudre en un seul coup. Et d'ailleurs, nous n'allons rien résoudre. C'est Dieu qui va résoudre. Donc, il faut comprendre cela quand même. Il y a un processus, il y a des actions à mettre en place. C'est le combat de toute une vie. Mais nous devons mettre en place ces mécanismes pour que les petits défauts, une fois qu'ils sont arrangés, ben le mécanisme, on le connaît pour les plus grandes batailles, pour les plus grands challenges, pour les plus grands traits de caractère qui nous font défaut. Parce que la connaissance, le savoir suivi de l'inaction, c'est quelque chose que nous devons faire face, avec laquelle nous devons batailler aujourd'hui plus que jamais. Cette capacité à connaître les choses et à ne pas agir, c'est l'étiquette de Laodicée. Laodicée est connue pour ça. Et nous allons voir ça dans Apocalypse 3. L'ère de Laodicée, c'est l'ère des temps de la fin, c'est l'ère dans laquelle nous vivons, et cela peut clairement se démontrer dans l'information qui est à notre portée de main. Nous avons des tonnes de notifications si nous les activons. Nous avons un accès à l'information comme jamais ça n'a été possible dans l'histoire de l'humanité. Nous avons de la connaissance à perte de vue, nous avons des moteurs de recherche, nous pouvons rechercher ce que nous voulons en un instant. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Ceux qui sortent de l'ère de Philadelphie, qui ont été là au début, ils ont acquis ce bagage, acquis cette connaissance qui n'était franchement pas là les 70, 80 dernières années. Il y a eu un boom au niveau spirituel grâce à Monsieur Armstrong que Dieu a guidé pour rétablir cette vérité et la mettre à l'ordre du jour. Et maintenant, dans cette ère, Apocalypse 3, verset 17, il y a un problème. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Spirituellement, on est dans cette ère. J'ai parlé des gens qui étaient là à l'époque de l'ère de Philadelphie, mais ça peut même être aussi les personnes qui viennent dans l'église et qui n'étaient pas là. Parce qu'on peut penser qu'on connaît tout. Ça s'applique à tout le monde. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colliant pour oindre tes yeux afin que tu voies. Donc, nous sommes dans cette ère-là. Nous ne voulons pas avoir la même attitude que cette ère-là, mais nous devons faire face, comme je l'ai dit, aux conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui en 2024. Mais je ne sais pas si vous avez noté dans ces passages, Laodicée a un problème. Un problème que nous avons déjà évoqué. Laodicée a un problème de vision. Dit aveugle au verset 17. Au verset 18. Il te faut un colliant pour oindre tes yeux afin que tu voies. Donc on revient à ce concept de l'aveuglement qui se manifeste par un défaut d'examen de soi. Problème de la Laodicée, omnibulé par la connaissance. Ça veut dire que nous sommes plus susceptibles que tout le monde de ne pas pouvoir rentrer dans nous-mêmes, de ne pas mener cet examen de soi. Et si, encore une fois, nous ne rentrons pas dans nous-mêmes, si nous n'analysons pas les choses comme il faut, et que nous pensons que nous avons réussi, c'est que nous sommes sur le mauvais chemin. Donc, pour reprendre ces principes que nous venons de voir, que ce soit dans Jacques ou bien même dans Apocalypse, et que nous les mettons en pratique dans la vie de tous les jours, on va voir comment cela peut peut-être nous allumer et nous pousser à agir. Les exemples que je vais citer ne concernent pas nécessairement des gens en particulier. Vous savez que quand les orateurs parlent, ils parlent pour eux-mêmes. Mais faisons l'exercice. Si je sais que j'ai des problèmes de tempérament, je n'arrive pas à me contrôler, certaines situations me mettent en colère et que j'explose, je cesse là, mais que je ne prends pas les mesures nécessaires pour remédier à la situation, je pêche. Je sais ce qui est bien, mais je ne le fais pas. C'est ce qu'on a vu dans Jacques. Si j'ai établi que j'ai des problèmes avec ma patience, c'est un peu lié, mais que je ne prends pas les mesures nécessaires pour travailler sur ça, prier Dieu, demander de l'aide, reconnaître que c'est un problème, ben, je pêche. Si je sais que je dois faire des efforts au niveau de mon hygiène de vie, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, je le sais, j'ai fait l'analyse, mais que je ne prends pas les mesures nécessaires pour changer, je pêche. On peut continuer la liste, hein. Si je sais que je ne sais pas tenir ma langue en bride et que cela, on sait que ce n'est pas bien, la Bible nous le dit à plusieurs reprises, je le sais et que je ne prends pas les actions nécessaires pour remédier à cela, je pêche. Si j'ai des problèmes de communication, que ce soit communication excessive ou un manque de communication. La communication, vous pouvez l'attaquer sous tous les angles. Mais si je sais que j'ai un problème à ce niveau et que je ne prends pas les actions nécessaires, pour remédier à cela, pour améliorer cela, pour mon entourage, pour mes frères et mes sœurs, je pêche. Si je fais tout le temps des reproches, des jugements, je me plains tout le temps. Je le sais. Je prie Dieu. Mais est-ce que je fais des actions concrètes pour changer? Si je ne fais pas ces actions concrètes, si je ne mets pas en place un plan de travail, je pêche. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle le péché par omission. C'est-à-dire que nous savons qu'il faut faire quelque chose de bien, mais nous ne faisons pas la chose qui est bien. Mais le péché par omission, comme dans tout dans la vie, il y a deux facettes. Là, j'ai parlé de quelqu'un, de moi, par exemple, qui n'arrive pas à contrôler mes nerfs, perd patience. C'est pas bien. La Bible condamne clairement. Nous devons avoir la maîtrise de nous. Le Saint-Esprit, c'est cela. Mais de l'autre côté de la médaille, est-ce que l'action qui a mené au manque de patience est aussi un résultat du fait que je sais qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je ne l'ai pas fait? On peut prendre l'exemple de couple marié, on peut prendre l'exemple avec des enfants, on peut prendre l'exemple de collègues. Les collègues, ça marche pas beaucoup parce qu'ils sont pas appelés, mais quand on se met de l'autre côté de la médaille du conflit, il faut voir, est-ce que la source du conflit est aussi due au fait que la personne sait qu'elle a quelque chose à faire, mais qu'elle ne le fait pas? Donc, il y a toujours deux faces dans une médaille. Et quand on est de l'autre côté de la barrière, on est aussi susceptible de savoir que, ah, si je fais ça, ça va déclencher ça chez lui ou chez elle, et il faut pas que je le fasse. Parce que ce que je vais faire, c'est pas bien. Donc, est-ce que vous comprenez à quel point les choses sont complexes? Est-ce que vous comprenez l'importance de l'analyse de soi, des deux côtés, quand il y a une interaction? C'est capital. Est-ce que nous comprenons que, en plus de connaître nos défauts, il faut agir pour les corriger? C'est bien de connaître nos défauts, mais il faut agir et travailler et passer ce qu'on appelle passer de la théorie à la pratique. Et il y a un mot que j'ai utilisé depuis un moment, depuis quelques minutes, à propos de ces situations, c'est le mot « péché ». Et là, nous, chrétiens, ce mot doit nous interpeller. Nous sommes censés avoir horreur du péché. Donc, s'il y a péché, et si nous sommes vraiment convertis, il faut qu'il y ait repentance. Et c'est exactement ce qu'Apocalypse 3 nous dit. À la fin du verset 19, « Aie donc du zèle et repens-toi. » Laodicée qui croit tout savoir, Laodicée qui est très bon au niveau intellectuel, mais Laodicée qui ne passe pas à l'action, il pêche. Il doit se repentir. Et le vrai repentir, ce n'est pas juste dire pardon, ce n'est pas juste reconnaître le problème, mais encore une fois, c'est de passer à l'action pour ne plus le refaire. Certains problèmes sont plus grands que d'autres. Ça ne va pas disparaître d'un seul coup. Certains problèmes peuvent disparaître. Dieu peut vous donner la sagesse, le cœur et débloquer le petit truc dans l'esprit qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, mais pour que le problème disparaisse. le défaut disparaisse, le trait de caractère s'assouplisse et s'en aille. Dieu peut tout faire. Mais il faut que nous nous repentions. Pourquoi? Parce qu'il y a péché. Et si nous retournons à Jacques, Jacques 1 encore, verset 26, c'est exactement ce qu'il préconise. Verset 25. Jacques 1, verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc Jacques préconise de passer à l'action, de persévérer. C'est pas facile, on n'aime pas ça. On est vulnérable. Les autres voient nos défauts. Mais c'est ça qu'il faut faire. Persévérer. Donc, si nous lisons encore une fois entre les lignes de ce que Jacques dit, nous voyons que l'examen de soi, l'introspection, est le point de départ pour lutter contre le péché. Le péché a entraîné le fait que nous ne soyons pas capables de faire cet examen, mais c'est en faisant cet examen que nous allons sortir du péché. On voit encore le côté central de ce fameux examen. Ce défaut d'examen, ce déni, cette réalité alternative dans laquelle nous vivons des fois, est venu par le péché, mais c'est aussi la porte de sortie du péché lorsque c'est conduit de façon adéquate. Et Dieu nous donne encore l'outil pour pouvoir faire cette analyse, pour pouvoir faire cet examen, parce que je ne sais pas si vous avez noté, mais dans Jacques, il parle de la loi parfaite et de la loi de liberté. Donc, c'est notre support, c'est notre standard pour pouvoir faire cet examen. Ce qui prouve encore une fois que la loi n'est pas abolie. Parce que si vous abolissez la loi, comment vous êtes capable de faire cet examen? Vous n'êtes pas capable. Psaume 19 va nous expliquer cela de façon magistrale. Psaume 19, versets 7 à 8 ou 8 à 9, dépendant des versions que vous avez. Psaume 19, dans ma Bible, c'est verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Et c'est qui l'ignorant? C'est celui qui est aveugle et qui n'est pas capable de rentrer en lui-même, qui n'est pas capable de faire l'examen de soi. Mais qu'est-ce qui va guérir ça? La loi. La loi, c'est agir. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Ça veut dire qu'encore une fois, ces préceptes, ces commandements, ces statuts sont le remède qui conduisent à un juste examen de soi. Et au verset 12, David dit, pour ton serviteur, ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Qui les observe, qui agit, qui fait son analyse, qui comprend et qui décide de prendre action, la récompense est grande. La récompense, c'est la vie éternelle. Si on persévère, comme Jacques l'a dit. Et quand nous y pensons bien, frères et sœurs, c'est ça, l'amour. L'amour, c'est pas juste ce sentiment chaud dans le cœur. C'est quelque chose de concret. Le vrai examen de soi doit conduire à l'action. L'amour est actif. Parce que si nous faisons aussi cet examen et que nous pointons nos défauts de façon correcte, ok, il faut que je m'améliore sur ça, sur ça, sur ça, mais si nous ne faisons rien, nous avons fait ça en vain. Nous avons fait ça en vain. Parce que notre réflexion n'est pas suivie d'action. Et ça, c'est pas le vrai amour. Dans Proverbes 18, verset 2, nous avons une définition de ce type de situation. Proverbes 18, verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Donc, on peut se retrouver dans ce cas. J'essaie de couvrir un peu toutes les facettes du défaut d'analyse de soi quand c'est pas bien fait ou quoi que ce soit. On peut aimer le fait que, merci Dieu, tu m'as montré ça. Effectivement, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est très bien, merci. Mais après, il n'y a rien derrière. Donc, on est dans le plaisir de la manifestation de nos pensées. Il faut qu'il y ait quelque chose qui suive. Et c'est ça le but de l'examen de soi. Ce n'est pas pour rester dans le domaine intellectuel, dans le domaine mental. Il ne faut pas que nous tombions dans ce piège stérile de l'examen de soi qui n'est pas suivi d'action. Donc, comme nous l'avons vu, frères et sœurs, l'examen de soi est primordial dans le plan de Dieu. Cette capacité à reconnaître, à analyser, à faire l'état des lieux conforme à la réalité le plus fidèlement possible. Souvenez-vous que nous avons quand même un voile, malgré le Saint-Esprit, donc le plus fidèlement possible. Cette réalité, cette capacité de faire cela, c'est ce que tout chrétien doit faire. Il n'y a pas d'exception. C'est ce que nous devons faire. Cette habileté de voir les choses comme Dieu les voit, ou au mieux que possible, cette habileté nous a été retirée par le péché. Nous l'avons démontré en début de sermon. Et donc, si ça a été retiré par le péché, ça veut dire que nous devons combattre le péché et nous devons l'utiliser. Au début du sermon, j'ai posé la question, à quoi reconnaît-on le déclin d'une nation, d'une civilisation, d'un empire? On a cité quelques exemples, mais il serait important de faire le même exercice avec nous et avec nos familles, par exemple. Quels sont les signes indiquant les prémices d'une crise familiale? Quels sont les signes avant-coureurs qui montrent que personnellement, nous sommes sur le déclin spirituellement? Nous, bien sûr, nous ne souhaitons pas être là, mais nous devons nous poser ces questions. Nous devons poser les questions et y répondre sérieusement. Et si nos analyses, si notre évaluation montre que nous sommes en danger, personnellement, au niveau de nos familles, Frères et sœurs, sachez que vous êtes à la bonne place. Vous êtes dans l'Église de Dieu. Parce que ce dont on vient de parler, c'est un pilier essentiel de la loi de Dieu. Cet examen de soi s'accompagne avec les fêtes printanières. Les gens du monde, les gens dans d'autres églises ne connaissent pas les fêtes printanières. Nous les connaissons. Et l'examen de soi va ensemble. Donc vous êtes à la bonne place. Ne perdez pas courage. Dieu nous demande de faire preuve de courage en cherchant au-dedans de nous, de questionner nos choix, de mettre à l'épreuve nos raisonnements, d'évaluer nos façons d'agir. Il nous demande de faire cela en comparant toutes ces choses avec ses commandements, ses conseils, ses préceptes, parce que c'est la vérité et c'est la voie de vie. Comme je l'ai dit, il a consacré la première partie de son plan à ce que cet examen soit là. Avec l'aide de Dieu, cet examen de soi doit nous conduire à l'action, doit nous entraîner à évaluer proprement. Ça c'est bon, je maîtrise ça, merci Seigneur. Mais ça là, j'ai de la difficulté avec. Aide-moi. C'est ça que cet examen doit faire. On n'est pas là pour nous flageller. Il faut être équilibré dans cette analyse. Mais il faut savoir que nous sommes bénis et privilégiés de ne plus avoir ce voile qui nous obscurcit la vue. Donc, profitons pleinement de cette opportunité pour demander à Dieu de nous montrer à changer, ainsi que la persévérance de ce processus de toute une vie. Et à l'approche de cette période pascale et de la fête des pains sans levain, supplions Dieu de nous donner la capacité à mener cet inconfortable mais honnête examen de soi.